nouveau numéro de ce programme consacré aux séances de renforcement des capacités des acteurs des chaînes de valeur agricole du pôle 7. Un programme que vous pouvez suivre, chers auditeurs, sur 5 radios partenaires, à savoir Radio Lokosa, Radio Tokpa, La Voix de la Vallée, Radio Gerdes et La Voix de la Lama. Aujourd'hui, nous allons aborder la question d'appropriation des thématiques innovantes de promotion de clusters. Et avec notre invité du jour, nous allons parler des questions de contractualisation et les services rendus aux membres. Bonjour monsieur, merci de mieux vous présenter s'il vous plaît.
Bonjour, alors moi c'est Oscar Medo, on m'appelle. Je suis ingénieur agroéconomiste, je suis expert cluster, expert chaîne de valeur et je suis également très averti en matière de conseil agricole.
Vous avez entretenu les participants sur l'appropriation des thématiques. Avec vous, nous allons parler de l'appropriation des thématiques innovantes de promotion de clusters, contractualisation, services aux membres. Est-ce que vous voudriez bien quand même rappeler les objectifs de cette communication que vous avez déjà eu à faire avec les participants en salle?
Alors, il faut déjà d'entrée retenir qu'au niveau du MAEP, donc ministère de l'Agriculture, il est constaté que la question de mise en marché des produits agricoles a souvent été un peu marginalisée. Il faut dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui y sont déjà en cluster, mais il y a d'autres qui ne sont pas. La grande majorité ne sont pas encore en cluster. Il était donc de bon ton que les acteurs du pôle 7, que ce soit ceux de la filière Anana, la filière maraîchage, la filière riz et bien d'autres filières qui sont importantes au niveau du pôle, soient sensibilisés sur cette thématique afin qu'ils perçoivent l'intérêt de se mettre en cluster, mais également développer les pratiques qui sont quand même des pratiques sécurisantes, notamment la question de contractualisation et les différents types de services dont on peut bénéficier lorsqu'on est en cluster. Et donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est aussi d'amener ces gens davantage à prendre conscience sur les enjeux qu'il y a autour de cette problématique-là.
Dites-moi, monsieur, quand on parle de cluster, que peut-on comprendre par cluster, monsieur?
Le cluster, ce n'est rien d'autre qu'un réseau d'acteurs. Ces acteurs peuvent être organisés ou non. Donc, qui décident autour d'une filière, par exemple, de s'unir, de se donner la main pour assurer la mise en marché des produits. Lorsque je suis dans la filière Anana, par exemple, nous avons des producteurs d'Anana, nous avons également des transformateurs d'Anana et nous avons ceux qui prennent également les jus d'Anana pour aller les positionner, que ce soit les supermarchés ou autres, pour les positionner sur le marché. Le cluster n'est rien d'autre que le creuset qui réunit l'ensemble de ces trois catégories d'acteurs qui interviennent sur la filière, donc producteurs, transformateurs, commerçants, pour garantir la mise en marché de ce produit-là. Ces acteurs ne sont pas seuls. Il y a bien évidemment, en amont, au niveau de ces acteurs-là, il y a les partenaires d'appui. Donc nous avons par exemple et les projets programmes qui sont les partenaires d'appui non intéressés qui apportent leur soutien aux différents acteurs de la chaîne de valeur Anana. Nous avons également les structures de financement et les structures d'encadrement telles que la TDA ou bien les ONG de conseil agricole par exemple qui les accompagnent. Donc le réseau que constitue l'ensemble de ces différents acteurs que j'ai cités là, c'est ce réseau qu'on appelle cluster.
Alors dans ce cas, comment peut-on nommer chaque acteur qui intervient dans ce cluster?
Merci bien pour votre préoccupation. Effectivement, comme j'ai commencé par le dire, l'élément fondamental que nous recherchons au sein d'un cluster, c'est la mise en marché du produit. Et l'acteur principal qui assure cette mise en marché de façon professionnelle et sécurisée, c'est celui qu'on appelle l'agrégateur. C'est soit une entreprise, soit un acteur individuel. S'il est formalisé, c'est une entreprise. S'il n'est pas formalisé, c'est un acteur individuel. Après cet acteur, nous avons ces partenaires d'affaires. Et c'est des partenaires d'affaires directs. Les partenaires d'affaires directs, c'est ceux qui ont un intérêt direct sur la chaîne de valeur. J'ai donné l'exemple de l'Anana, nous allons poursuivre avec ça. Si nous prenons le producteur, il est un partenaire d'affaires direct. Lorsque nous prenons le distributeur de jus d'Anana, qui prend le jus d'Anana et qui va le positionner sur le marché, il est également un acteur direct. Lorsque nous prenons l'agrégateur, il agit directement sur le produit. Il est un acteur direct. Mais en dehors de cela, nous avons des partenaires d'affaires indirects. C'est des partenaires qui viennent en appui à la filière, à la chaîne de valeur. Et comme j'ai commencé par le dire, c'est les structures de microfinance, c'est les banques qui apportent le financement à ces acteurs pour que leur business puisse se développer. C'est également les projets programmes qui ont un intérêt à ce que la chaîne de valeur se développe et qui apportent des subventions. Nous avons tout récemment, par exemple, le projet DEFIA qui a énormément financé la filière Nana. Nous avons l'IFTC et ses partenaires qui, à travers le projet ACMA, a énormément accompagné les PEA, le pôle d'entreprise agricole, dans la mise en marché des produits agricoles.
Dites-moi, Monsieur Mendo, quels sont les avantages d'appartenir à un cluster?
Lorsqu'ils se mettent en cluster, l'intérêt qu'ils tirent déjà, c'est l'augmentation du volume de production. L'ambition, c'est d'accroître le volume de production. Plus le volume de production s'accroît, plus le chiffre d'affaires réalisé par les différents acteurs s'accroît. Nous avons les questions de facilitation d'accès au marché, parce que vous êtes mis en contact avec un agrégateur qui est en contact direct avec des consommateurs. Et donc, cet agrégateur a la facilité de positionner votre produit sur les différents marchés auxquels il a accès. Plus les acteurs sont organisés, plus on leur dit de signer des contrats entre eux. Et si vous allez voir une structure de microfinance où tu lui dis « Je suis producteur, j'ai signé un contrat de vente avec tel agrégateur et il veut prendre tel volume de produits », ah, ça offre plus de sécurité. Le simple fait que la structure de financement sache qu'il y a un suivi technique qui est fait limite les risques de perte de fonds. Oui. Donc le niveau de la perception du niveau de risque au niveau de producteur est levé et donc il a plus facilement accès à ce crédit-là. Et de l'autre côté, l'agrégateur, lui, il a plus de facilité parce qu'il peut mieux conseiller les producteurs à lui fournir des produits qui répondent mieux à ses attentes. Mais il y a des entreprises qui n'avaient pas des certificats de sécurité sanitaire pour leurs produits. Et parce qu'ils sont en cluster, parce qu'ils ont été accompagnés, ils ont pu avoir des certificats de sécurité sanitaire. Ils ont pu avoir des agréments au niveau de la sous-région, des agréments UMOA, les agréments.
Ce qui garantit la mise en marché.
Ce qui garantit la mise en marché. Et non seulement leur produit est commercialisé au niveau national, mais ça franchit les frontières. Le Niger, le Burkina, même ça va jusqu'au Tchad ou au Sénégal.
Monsieur Mendo, la question de la contractualisation, quelle est son importance quand on est dans un cluster?
Et la question de contractualisation, c'est une question qui fait peur souvent aux producteurs. Ça fait peur aux producteurs à cause de l'implication juridique qui est derrière. Le producteur se dit, lorsque je signe un contrat, si jamais il y a un petit pépin, on risque de m'enfermer. Oui. Ou je vais payer des dommages.
Ce qui est normal.
Ce qui est tout à fait normal. Mais cela n'offre pas de sécurité à l'agrégateur et même le producteur lui-même, ça ne le protège pas. Il y a des exemples concrets. Des gens ont signé des contrats et le prix qui est défini dans ces contrats-là, au moment de la vente, ce prix monte sur le marché. Donc, je donne un exemple. Vous avez signé un contrat sur 150 francs et au moment de la livraison du produit, sur le marché, le prix monte à 175. Alors, pour l'agrégateur, s'il n'avait pas signé de contrat, oui, normalement, il va acheter le produit à 175. Oui. Mais s'il est en contact avec des producteurs sérieux, on lui livrera ce produit à 150. Mais de l'autre côté, le producteur qui a signé un contrat sur la vente au kilo à 150 et qu'au moment de la livraison, le prix passe à 125, il dira en ce moment, ah, il faut que l'agrégateur puisse acheter le produit à 150 chez moi. Et donc, ça offre une sécurité par rapport et une garantie par rapport à la commercialisation du produit à bon prix. Peut-être que le 125, qui est le prix sur le marché, n'est pas un prix rémunérateur pour lui. Lorsque vous avez développé la pratique de la contractualisation au niveau du cluster, les projets programmes qui veulent vous accompagner, lorsqu'ils descendent et veulent vous faire un diagnostic avant de savoir si vous êtes des gens sérieux ou pas, vous sortez des contrats, ils vont dire que ça améliorera votre crédibilité à leur égard. Et donc, c'est très important pour la crédibilité du dispositif que vous avez mis en place.
Dites-moi, Monsieur Mendo, quelles sont les dispositions pratiques que les acteurs peuvent prendre pour honorer leur contrat, puisqu'ils sont souvent confrontés à certaines difficultés dans la contractualisation?
Alors, lorsque je suis un producteur et que je vais signer un contrat, la première chose à laquelle je dois penser, c'est d'abord, est-ce que je dispose de la superficie minimale qui me permettra d'avoir le volume de produits dont j'ai signé le contrat? Je prends un exemple simple. Je vais signer un contrat de fourniture de maïs. J'ai signé pour 10 tonnes de maïs. Mais je me rends compte qu'en réalité, je n'ai que 5 hectares. Alors que les pratiques chez nous, c'est 900 kilos à l'hectare de rendement que nous avons, ou à la limite une tonne que nous avons sur le maïs. J'ai 5 hectares, ça suppose quoi? Que je ne peux qu'espérer, au meilleur des cas, que 5 tonnes.
Ouais.
Mais j'ai signé 10 tonnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me manque 5 hectares supplémentaires pour pouvoir honorer mon engagement. Il n'y a pas de miracle en matière. Alors, dès que j'ai signé le contrat, ma première attitude serait donc, où est-ce que je trouve les 5 hectares supplémentaires pour pouvoir honorer mes engagements? Le deuxième élément, quelle est la quantité d'engrais dont j'ai besoin? Si je dois faire des apports d'engrais, quels sont les produits de traitement dont j'aurai besoin? Parce que c'est des éléments qui arrivent. Il peut arriver que vous ayez des attaques. Et donc, au moment où j'ai signé le contrat, je prends cette disposition pour garantir le bon déroulement de la campagne. Alors, donc, je dois avoir le matériel nécessaire pour pouvoir assurer ça. C'est la question de transport. Si j'ai signé un contrat où je dois livrer mon maïs à l'usine pour celui qui veut acheter mon produit, par exemple, mais quel est le moyen de transport que je dois utiliser? Il arrive des moments où, lorsque la campagne est à terme, presque tous les acteurs sont en train de courir et les transporteurs auxquels on est habitué souvent sont occupés, ils sont débordés. Si je n'avais pas pris des engagements avec quelqu'un, des engagements fermes avec quelqu'un, ben, je vais me retrouver le produit sur le bras, il n'y aura personne pour le transporter. Donc, on doit réfléchir lorsque nous avons un contrat jusqu'à ce niveau-là.
Quel comportement faut-il adopter lorsqu'il s'agit d'un contrat signé pour l'exportation du produit, par exemple?
Alors, les contrats signés à l'extérieur sont des contrats quand même les plus juteux, mais les plus dangereux. Il faut pouvoir le dire ainsi. Les plus juteux parce que lorsque vous avez un produit destiné à l'export, le prix de cession n'est pas le même que si tu devais le mettre sur le marché national. Je prends l'ananas fruit qui est exporté. Il y a un calibre qui est donné. Et puis, ce calibre, on met ça dans des cartons, on l'envoie. On l'envoie en Europe. Le prix, je vous le dis, le prix auquel c'est vendu en Europe, ce n'est pas le même prix que nous avons ici. Vous savez, un ananas, c'est un produit qui est très facilement périssable. Donc, ça doit partir par avion. Et il y a un certain nombre de risques liés à ça. Si ça n'arrive pas vite, les problèmes qu'ils ont souvent ici, tu peux avoir coupé ton ananas. Tu arrives à l'aéroport, mais il n'y a pas d'avion de disponible pour pouvoir te l'emporter. Il peut arriver que ton produit vienne à l'aéroport et que, l'opérateur qui doit amener, le convoyeur qui doit amener ton produit, il a un surplus de bagages passagers et ça ne lui permet pas de prendre ton produit. Ton produit est donc débarqué parce que ce n'est pas prioritaire. On privilégie les bagages et passagers aux produits de fret. Alors, dans ces conditions où ton produit est débarqué, ton client ne l'a pas reçu là-bas, s'il n'a pas pu honorer ses engagements là-bas, il y a des problèmes qui se posent. Et souvent, il y a de ces clauses-là qui sont insérées où le producteur béninois est pénalisé. Ton produit peut être envoyé sur un autre vol, mais arrivé là-bas, si une seule détérioration est observée, on te dit, toi, producteur d'ici, qui est exportateur d'ici, on te dit d'envoyer les frais pour détruire ton produit en Europe. Donc, c'est autant de choses qu'il faut savoir prendre avec du sérieux. Et il ne faut pas s'y engager pour s'y engager. Il faut prendre les dispositions qu'il le faut et s'entourer des personnes compétentes pour pouvoir le faire. C'est vrai, il y a des clauses qui se font peur, mais il est important quand même pour nous de mieux nous préparer, de mieux nous organiser pour mieux répondre à ces attentes-là.
Monsieur Medo, quels sont les autres services que peuvent s'offrir les membres des clusters en dehors des liens d'affaires dont nous venons de parler?
Le principe qui fonde ce type de service, c'est quoi? L'agrégateur, pour obtenir la confiance de ses partenaires d'affaires, donc des producteurs, souvent offre des facilités. Il y a certains agrégateurs, par exemple, qui aident les producteurs à avoir des semences de qualité, qui répondent mieux à leurs attentes. Donc, au lieu de les laisser chacun se débrouiller pour aller chercher sa semence, ils les aident à leur mettre à disposition ces semences-là. Il y a certains qui les aident à avoir des engrais. Ça peut être à titre, sous forme de crédit intrant. Et puisqu'ils sont sûrs que c'est eux qui veulent récupérer le produit à la fin, ils le leur vendent à crédit et après la vente, ils font la défalcation. Il y a également d'autres accompagnements. J'ai parlé tantôt des projets programmes. Lorsque vous êtes en cluster et vous êtes bien structuré, vous êtes bien opérationnel, les acteurs jugent que vous êtes des gens sérieux. Et que si on booste un peu votre niveau d'activité, vous parviendrez à un meilleur niveau d'activité, vous parviendrez à un meilleur volume positionné sur le marché. Et c'est dans ce cadre, par exemple, que un certain nombre de clusters ont bénéficié des appuis en équipement. Voilà, tout dépend du dynamisme de l'agrégateur et c'est ça qui permet d'avoir tous ces avantages-là. à moi. Donc, moi, je suis dans le monde de l'Ouah, à Zodéo. Je suis dans le contrat de le cluster de l'agrégateur de l'Ouah, le cluster de l'Ouah, à l'Ouah, à l'Ouah. Quand on a été dit à ton lait, quand on a projet 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 de ton lait, il y a un bon mec qui a été même avec moi. Je ne sais pas si je suis un cluster de l'école au salaire, mes filles. Bon, je suis un cluster de l'école, un cluster. Ah, et je suis un agrégateur, mais donc, je suis un peu plus. Contrat n'a pas été mis en place, je suis un contrat, je suis un peu plus. Et je suis un peu plus. 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 Je suis on a quoi y'a un peu à quoi y'a un peu de microfinance, y'a quoi y'a un peu de temps. Je suis fini, je me dis, oh, nous avons des gens qui ont été mis à rien sous quoi nous. Pas de contrat, nous avons été en train de faire des choses. Nous avons signé un contrat, 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 nous avons signé un contrat. On
nous sommes à la fin de ce programme proposé par l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 en partenariat avec 5 radios sur lesquelles vous pouvez donc retrouvez l'intégralité du programme. Prenez le rendez-vous chaque semaine. Nous abordons une nouvelle thématique. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Retrouvez en nouvelle diffusion ce programme le samedi prochain à partir de 16h sur cette même fréquence. Et à la prochaine pour une autre thématique.